Du génocide arménien à la panthéonisation avec Thomas Tcherkézian.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
En sol majeur, aime à ne pas oublier, aime à se rappeler de ces noms étrangers qui ont fait la France, de Guillaume Apollinaire à Marie Curie, en passant par Pierre Cardin, Milan Kundera ou Charles Aznavour. Mais il y a aussi ces apatrides qui ont lutté contre le nazisme et qui sont morts pour la France sans être français. C'est le destin tragique de Missak Manouchian, rescapé du génocide arménien qui deviendra un symbole de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour accompagner l'entrée du communiste Manouchian et de son épouse au Panthéon, c'était le 21 février dernier, les éditions Dupuy sortent une bande dessinée magnifique qui raconte Missak, Méliné et le groupe Manouchian, signé Jean-David Morvan pour le scénario et un certain Thomas Tcherkézian pour le crayon. Je vous fais pas un dessin ? La plage, il fait tout à coup 35 degrés dans le studio en sol majeur grâce à Childish Gambino et son Feels Like Summer que vous avez programmé. Bonjour Thomas Tcherkézian.
Bonjour Yasmine, merci de m'inviter.
Quel beau gosse, bodybuildé, magnifique boucle d'oreille, qu'est-ce que c'est comme boucle d'oreille que vous avez ?
C'est des boucles d'oreilles macabre gadget, si je dis pas de bêtises, ils font des super pièces, pas beaucoup mais... Très joli, donc c'est des premières.
Je suis impressionné. Pourquoi ce titre à l'instant ?
Feels Like Summer, je l'ai découvert cet été. Et puis, il m'a un peu accompagné le long de la production de l'album. Donc, il me donnait une bonne vibe pendant que je dessinais. Ça a été un rythme assez effréné. Et puis, il permettait de m'échapper, d'aller dehors alors que j'étais dans le studio.
On va se rapprocher effectivement du Panthéon et raconter l'histoire tragique de Missak Manouchian que vous dessinez aux éditions Dupuy. Mais j'ai juste une petite première question. Est-ce que vous avez l'impression, avec cet album, d'avoir un peu un poids sur les épaules, le poids de l'histoire ?
Ah, bien sûr. J'ai un poids sur les épaules, le poids de l'histoire, mais aussi le poids de représenter un peu aussi toute une communauté à travers cet album. Je pense que je l'ai ressenti de par tous les messages que j'ai reçus quand je l'ai finalisé, tous les messages de soutien. De ma famille, de mes proches, etc. Donc forcément, c'est un challenge un peu de le représenter aussi, je trouve.
Parce qu'évidemment, cette histoire de Manouchian fait écho à une partie de votre histoire familiale qu'on va un peu raconter. Puisque pour un sol majeur, vous avez amené quelques photos.
De famille.
Donc, check mon portable, j'ai ramené quelques photos que mon père m'a envoyées lui-même. Donc, une première photo de mes arrière-grands-parents du côté de mon grand-père. Donc, c'est une photo en noir et blanc, photo classique, portrait de famille d'époque. Ils se tiennent à gauche et à droite d'un fauteuil sur lequel est debout le grand frère de mon grand-père qu'il n'a jamais connu vu qu'il est mort à 9 ans.
Il est tout petit.
Et il est vraiment tout petit. Il doit avoir 2 ans peut-être, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et puis, ils se tiennent droit. Ils sont probablement au Liban, au début des années 20, peut-être 22, 23. Il n'y a pas de date exacte. Mais c'était juste avant qu'ils partent pour la France, pour aller à Marseille et s'installer définitivement. Puis, il y a une seconde photo, peut-être 20 ans plus tard, où on voit mes deux arrière-grands-parents du côté de mon grand-père qui sont assis l'un à côté de l'autre, et derrière eux, il y a mon grand-père tout à gauche, et ses 4 sœurs à côté de lui. On peut voir mon grand-père qui doit avoir 16-17 ans, donc je m'identifie un peu à lui, même si je suis un peu plus âgé. J'ai l'impression de me voir. Et pareil, c'est une photo noir et blanc, très joli portrait à Marseille, ici en France.
Qu'est-ce que vous savez du parcours de ses arrière-grands-parents ?
Alors, mes arrière-grands-parents du côté de mon grand-père, ils sont issu d'une petite ville dans le sud de l'Anatolie, en actuelle Turquie, mais à l'époque, il y avait plein d'Arméniens qui vivaient en Anatolie, à la limite avec la Syrie. Et puis, suite au génocide arménien, ils sont allés au Liban, à Beyrouth, avant de rejoindre la France aux alentours de 1924-1925. Donc, ils ont un peu le même parcours que Misak Manouchian. Donc, forcément, quand je retraçais un peu l'histoire de cette apatride, je voyais un peu le parcours de ma propre famille, et comme celle de milliers d'Arméniens qui ont quitté du coup leur terre pour venir en France.
Il y a en particulier un document qui vous a marqué, Thomas.
Bien sûr, le passeport de mon arrière-grand-père, avec les lettres manuscrites d'époque, la photo, les dates. Le passeport, c'était quand même assez particulier, vu que j'avais aussi celui de Misak Manouchian. Donc forcément, on faisait le parallèle directement. On avait les deux photos sous les yeux, c'était assez marrant.
Donc il a été émis à partir de quelle ambassade ?
À partir de l'ambassade de Beyrouth.
Sous mandat français ?
Sous mandat français, en 1918, ouais.
En tout cas, la famille, comme point de chute pour cette famille, c'est Marseille.
Marseille, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est la ville avec la plus grande communauté arménienne en France. C'est qu'il y a beaucoup d'Arméniens qui sont arrivés notamment de Grèce ou du Liban. Beaucoup sont restés, Misak a décidé de remonter vers Paris, mais il reste quand même une exception.
Nous avons pris la route, nous avions faim, nous avions soif. On ramassait l'eau de pluie pour boire. Le voyage a duré plusieurs jours. On est passé de village en village jusqu'au jour où on est arrivé au bord d'un fleuve. Nous l'avons traversé dans des bateaux. Dans le premier bateau, les jeunes filles arméniennes, vierges, criaient. Elles hurlaient « Dieu sauve-nous !» parce que les soldats turcs les prenaient. Pour sauver leur dignité, elles sautaient dans l'eau. Il y aurait tellement de choses à raconter.
L'exil des Arméniens massacrés en 1915 dans l'Empire ottoman, c'est extrait d'une histoire sensible du génocide arménien. C'est un numéro de la Marche du Monde sur RFI qu'on vous recommande en sol majeur. C'est à réécouter en podcast sur Pure Radio. Cette question du génocide arménien, Thomas Tcherkassian, on sait les silences de l'école. Est-ce que, au sein de votre propre famille, on vous a raconté de quelle manière ce génocide avait été vécu ?
Au sein de ma propre famille, J'ai oublié de dire qu'il y avait quand même beaucoup de tabous aussi par rapport au génocide des Arméniens. Mon père et mon parrain racontaient que leur grand-père à eux, donc mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère, restaient quand même très silencieux par rapport à ce qui s'est passé en Arménie. Donc vraiment peu d'informations ont été divulguées. Et puis je pense que c'est qu'à partir de mon grand-père qu'il y a un vrai travail de recherche qui a été fait pour voir d'où il venait, pour voir ce qui s'était passé, pour aussi retrouver des membres de la famille qui, à cause de la diaspora, s'est retrouvé en Australie, au Canada. Il a vraiment fallu, je pense, une sorte de d'écoulement des générations pour commencer à parler du génocide des Arméniens.
Est-ce que vous avez, senti dans l'éducation qu'on vous a donnée que vos parents souhaitaient préserver la culture arménienne ?
Alors, mes deux parents ne sont pas d'origine arménienne. Je suis métisse, enfin, du côté de mon père d'origine arménienne et du côté de ma mère franco-algérienne. Donc, la culture qui était commune à mes deux parents, c'était la culture française. Donc, moi, j'ai été éduqué à travers la culture française. Bien sûr que quand j'allais voir ma famille à Marseille, il y avait la culture arménienne à travers les repas, les danses et la musique. Mais au quotidien, ici, sur Paris, quand j'étais avec mes parents, la culture arménienne n'était pas si présente que ça à la maison non plus.
Et alors, la culture algérienne ?
C'était la même chose, hein, pas si présente non plus.
Donc, vous avez évolué comme ça entre deux silences ?
Un peu, ouais.
Alors, on est là pour évoquer un ouvrage, un album bande dessinée important autour de cette question du génocide arménien. Et vous venez de transpirer sang et eau, j'imagine, pour dessiner ce très bel album. Mais c'est drôle parce que lorsqu'on vous pose la question « Quel est le chapitre d'histoire qui vous touche le plus ?», votre réponse, c'est « L'Antiquité ».
C'est vrai que ça n'a rien à voir. Peut-être parce que toute l'histoire du XXe siècle est tellement retranscrite de mille et une manières que l'on en perd un peu un côté de légende, de mythe. Ça qui me plaît aussi dans l'Antiquité, c'est qu'on a moins de manuscrits, moins de films qui en parlent, moins de livres qui en parlent. Donc forcément, ça crée une sorte de fantasme autour de cette période qui me plaît beaucoup.
Et il y a une période en particulier dans l'Antiquité qui vous...
L'Antiquité, moi j'aime bien aussi le millefeuille des cultures entre l'Égypte antique, donc, qui se cumule avec la Rome antique. Donc forcément, ça nous ramène à des cultures différentes. Et puis on apprécie ce mix-là qui n'est pas forcément dans nos esprits au premier abord.
Oui, c'est peut-être pour compenser aussi ce manque d'archives que vous vivez vous-même.
Oui,
parce que vous-même,
possible.
Vous êtes possiblement un feuilleté
c'est très possible,
d'identité ouais. Et de culture. En tout cas, il faut bien comprendre, Thomas, que votre monde commence avec une part arménienne et une part algérienne, je le découvre, mais qu'il s'ouvre à d'autres mondes.
Siempre que te pregunto que cuando, como y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú. Tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días. Desesperado y tú contestando, quizás, quizás, quizás.
Un autre monde, mais il chante en plus, Thomas Tcherkassian. Pardon, c'est avec un boléro qui a été écrit, j'ai révisé ça, en 1947 par un compositeur cubain et adapté en 1958 par...
Nat King Cole.
Et oui, pourquoi ce titre vous botte à ce point? C'est un boléro amoureux, hein?
Bien sûr, et puis c'est ma mère qui me l'a fait découvrir, donc forcément il y a une part de mon enfance dans ce son. Et en même temps, beaucoup de mélancolie à travers les paroles de la chanson. C'est en espagnol, donc ça change un peu du français, ça change un peu de l'anglais qu'on écoute beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup Kissas.
On va garder, si j'ose dire, le bruit de bottes pour se rapprocher d'une page d'histoire liée à la Seconde Guerre mondiale et à l'affiche rouge. J'ai entre les mains cette très belle bande dessinée qui sort aux éditions Dupuis, Missak Méliné et le groupe Manouchian.
Radio Paris est allemand. Radio Paris est allemand. Avez-vous vu des oiseaux dans la barbe de Charlemagne?
B.
La fée a un joli sourire. Nous disons la fée a un joli sourire.
B comme.
Rodrigue, as-tu du cœur?
Bleu, blanc, rouge.
Un drapeau français reconnaissant à l'endroit de Missak et Méliné Manouchian panthéonisé. Ce 21 février, Manouchian qui a été fusillé au Mont Valérien le 21 février 44 en refusant, ce n'est pas un détail, d'avoir les yeux bandés. Une panthéonisation qui se justifie pour que soit enfin reconnue la résistance des étrangers et des communistes sur le sol français. C'est ce que dit l'historien Denis Péchanski. Alors vous nous parliez de votre arrière-grand-père arménien à l'instant, Thomas. Mais qu'est-ce qui, plus profondément et plus encore personnellement, vous a peut-être décidé à rentrer dans cette aventure au bras du scénariste Jean-David Morvan?
Je pense que l'identification un peu à beaucoup de jeunes résistants qui font partie du groupe Manouchian m'a permis de me plonger totalement dans le récit. Je pense à des résistants comme Marcel Reymann, comme Joseph Witschitz, c'est des noms très compliqués à prononcer. Mais c'est des jeunes qui avaient 19, 20 ans, mon âge, quoi. Donc forcément, on se projette et on essaie de se mettre à leur place à cette période-là et on se rend compte qu'il y avait beaucoup de courage et forcément, ça nous rattache un peu plus à leur récit, quoi.
Est-ce que vous nous décririez la couverture de Missak Méliné et le groupe Manouchian?
Alors la couverture, elle est très inspirée de l'affiche rouge. Forcément, c'est un marqueur qui est dans notre imagerie collective à tous et à toutes.
Vous nous rediriez ce que t'est l'affiche rouge?
Alors l'affiche rouge sur fond rouge. Un rouge très fort avec le portrait de 10 résistants qui faisaient partie du groupe Manouchian, donc positionné en pointe jusqu'à son chef, Missak Manouchian, et des photos d'attentats, de déraillements qui étaient positionnés pour marquer les esprits de tous les passants qui voyaient l'affiche, quoi. Et étaient décriées, bien sûr, toutes les personnes qui étaient affichées avec comme description « libération ». Par l'armée du crime. Ça montre un peu la volonté du régime nazi de montrer que c'était des terroristes, voilà. Plus que des résistants.
Donc c'est l'affiche rouge, en fait, qui est la couverture de cet album.
Et bien sûr.
On dirait que graphiquement, c'est très très proche, à votre santé, de la photographie.
Merci. Oui, c'est très photoréaliste. C'est comme ça que je dessine d'habitude. Et puis aussi, ça nous permet de nous rendre compte aussi de ce à quoi il ressemblait à cette époque-là. Donc moi aussi, c'était un vrai pari de me dire... Si Missak Manouchian devait être dessiné de manière réaliste, à quoi il ressemblerait s'il était comme ça face à nous? Pareil pour Méliné, pour les autres. Hein. Je trouve que c'est une belle couverture.
Alors c'est à la fois une bande dessinée et un livre d'histoire, où la petite histoire d'un homme est traversée par la grande. Donc l'histoire de Manouchian, elle démarre dans l'Empire ottoman, en pleine Première Guerre mondiale, sur une rumeur autour des Arméniens. Il paraîtrait qu'il collabore avec l'ennemi russe. S'en suivent des massacres, déportations, camps de concentration. Et là, votre crayon, Thomas, se met à parler. Vous dessinez notamment, c'est une image qui m'a beaucoup marqué, des corps arméniens qui sont comme ça étalés, épars sur la route. Ils sont morts, bien sûr. Et il y a en particulier le corps d'une femme gisant par terre, sa tête décapitée, posée entre ses cuisses. Vous avez travaillé à partir d'une archive ?
J'ai travaillé à partir du script de Jean-David Morvan. Et c'était vraiment décrit par lui. Je pense qu'il ne voulait pas du tout arrondir les angles, ni lisser l'histoire. Il voulait représenter de manière très naturaliste le génocide des Arméniens pour marquer, je pense, les esprits. Il ne voulait pas qu'on passe dessus comme si c'était une vulgaire archive comme les autres.
Mais lui-même, son récit, il a pris appui sur des archives. Parce que c'est une image qu'on ne peut pas inventer.
Je ne pense pas qu'il l'a inventé. Je pense que forcément, il y a eu des récits qui l'ont compté, mais les atrocités qui sont passées là-bas, je pense qu'elles sont de toute nature. Donc, il s'est forcément appuyé sur des récits. Et puis moi, j'ai essayé de les dessiner depuis des archives que j'avais aussi, des archives photographiques, mais forcément on est inspiré par les photos qui découlent de 1915.
Ce que l'on comprend dès les premières pages de cet album, c'est qu'en fait le noyau dur des convictions du futur résistant que va devenir Manouchian prend sa source dans le génocide arménien lui-même.
Ah mais 100%, bien sûr. Il y a une part de romantisation de la part de Jean-David Morvan sur... On n'a aucune trace de ce qui s'est passé réellement en Arménie, mais la mort de son père, elle est réelle, la mort de sa mère est réelle, et puis forcément l'oppression d'un peuple par un autre, l'occupation d'un peuple par un autre, c'est des choses qui forcément vont durer toute la vie dans le cœur de Manouchian et qui vont faire qu'il va agir de la manière dont il va agir une fois en France en 1940.
Alors on sait quand même des choses. Manouchian va perdre son père qui sera assassiné, sa mère qui va mourir de faim. Il arrive, on est toujours dans l'Empire ottoman à ce moment-là, dans un orphelinat mais dans une zone qui est un protectorat français. Puis je brûle des étapes, il arrive en 1924 je crois à Marseille en apatride, il devient ouvrier dans la France de ces années-là, il entre à la Sorbonne. Il se met à écrire énormément. Il écrit des poèmes. Il écrit dans une revue littéraire de la diaspora arménienne, une certaine revue qui s'appelle Chank. Tout ça en éprouvant un immense amour pour cette France, en fait, qui vient de l'accueillir. Dans cette période-là, qui est la première période de sa vie, enfin non, la seconde période de sa vie, puisqu'il y a déjà eu le génocide, cette période qui précède en tout cas son entrée en résistance, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, Thomas ?
Je pense que c'est son abnégation dans sa volonté de faire partie du pays dans lequel il vient d'arriver, de son intégration. Il va apprendre le français, il veut être naturalisé.
Il ne sera jamais naturalisé.
Il ne sera jamais naturalisé, mais lui, il a fait la demande.
Deux fois.
Donc forcément, je sens qu'il y a une vraie volonté de sa part d'intégrer le pays dans lequel il est et d'y travailler et d'y évoluer, forcément. S'il commence à écrire en français, à entrer à la Sorbonne, à être passionné de littérature, c'est qu'au fond de lui-même, il a un amour profond pour le pays dans lequel il vient d'arriver, quoi.
Pour les valeurs, pour cette patrie qui incarne les droits de l'homme, etc. Et qu'est-ce que vous avez-vous aimé dessiner de cette période-là, de ce qui va l'amener à son entrée dans la résistance? Si vous avez l'album là sous les yeux, vous pouvez l'ouvrir.
Alors forcément, on dessine Paris à cette époque-là. Donc c'est assez marrant de retrouver les photos d'archives. Souvent, c'était des cartes postales sur lesquelles on voyait des photos en noir et blanc de Paris de cette époque-là, de 1930-1935.
Ils sont bons, ce bouillon.
J'ai mis des petits oignons.
Vous soignez Mario. Et puis nous, on en profite.
J'ai beaucoup aimé dessiner les costumes, la chemise, les robes de Méliné, les coiffures. Les coiffures des femmes dans les années 30, les années 40, c'est exceptionnel.
C'est-à-dire ?
Mais c'est toujours très complexe. Et on a l'impression qu'avec un coup de vent, c'est fini, quoi. Et les costumes, c'est beaucoup, beaucoup de chemises avec des trois pièces ou des pantalons très amples, les chaussures d'ouvrier... que portaient beaucoup les classes populaires de cette époque-là, les chaussures d'ouvriers avec des grosses semelles et les grands lacets. C'est très redondant à dessiner, ça c'est clair. En tout cas, je trouve que c'était des beaux costumes à explorer quoi, sur cet album.
Moi, ce qui me manque, c'est la peinture. Une belle petite couleur bien fraîche à étaler, là, tu sais.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'Élysée, en France, parle au sujet de Manouchian d'héroïsme tranquille. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement derrière cette expression, mais c'est vrai que Manouchian... Au départ, c'est un résistant pacifiste. Il ne veut pas tuer les gens.
Bien sûr. Pour lui, c'est criminel de voir ce que fait la résistance. Il résiste, comme beaucoup d'autres personnes à cette époque-là, de manière pacifique, à travers les tracts. Et puis, c'est avec des conversations avec certains résistants qui se rendent compte que finalement, il faut combattre le feu par le feu et que le choix n'est pas forcément présent. Quoi.
Donc, il hésite à rentrer dans la lutte armée. Et puis, il y a un moment de bascule.
Bien sûr. Forcément, il traîne avec d'autres résistants, c'est dans son sang. Et puis à un moment donné, il se sent trop lâche de ne pas agir. Je pense que son passé aussi joue beaucoup dans la balance.
Son passé de rescapé du génocide arménien.
Bien sûr, et puis d'avoir été trop jeune à cette époque-là, de s'être senti impuissant. Et je pense que c'est un peu une forme de revanche sur cette impuissance de se lancer dans la résistance.
Vous vous souvenez de ce moment de bascule que vous dessinez ?
Le lancer de la grenade,
ouais.
Bien sûr. Il est avec Marcel Reymann et Arsène Tchakarian, qui sont deux résistants du groupe Manouchian. Et il n'est pas du tout parti pour agir sur cet attentat-là. Marcel Reymann, lui, a déjà beaucoup d'antécédents, de faits d'armes. Il est déjà très aguerri. Alors que Manouchian, lui, il n'a jamais fait quoi que ce soit. Et puis, à un moment donné, il lui prend le courage de dire « Non, cette fois-ci, c'est moi qui vais lancer la grenade sur ce groupe de soldats allemands. » Et je pense que c'est le début de Manouchian, chef des FTP-MOI.
Voilà, alors il faut rappeler ce que c'est qu'FTP et MOI.
C'est les Francs Tireurs et Partisans, qui est le groupe de résistants. Et MOI, c'est la main-d'œuvre immigrée, qui est une forme d'association d'expatriés de différents pays, beaucoup d'Arméniens, des Juifs polonais, des Espagnols. Tout ça était dans un but d'entraide hein, à la base. Et c'est formé les FTP et MOI, qui sont en fait des résistants issus de cette main-d'œuvre immigrée.
Et on peut dire, les historiens disent que c'est en fait la branche armée du Parti communiste.
C'est ça.
Donc là, avec ce fait d'armes, qui n'était pas prévu, Manouchian prend du galon et il va initier de grosses actions armées contre des points nazis dans cette France occupée.
Il y a eu l'assassinat d'un haut chef
nazi.
Nazi, oui.
Un commandant de mémoire.
Un commandant qui a marqué beaucoup les esprits parce que c'était une première fois que la lutte armée de la résistance s'en prenait à quelqu'un d'aussi haut placé et ça faisait bouger un peu l'échiquier.
Le général von Schomberg.
Voilà, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans.
L'affiche rouge est placardée sur les murs de France. Il faut faire peur et faire croire que les résistants sont tous des bandits et tous des étrangers.
Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, ils cherchaient un effet de peur sur les passants.
Cet extrait de Strophe pour se souvenir, signé Louis Aragon en 1956, se souvenir de cette propagande allemande qui a été fomentée à travers l'affiche rouge sur les murs de Paris, avec tous ces visages lié au groupe Manouchian. Et c'est incroyable, Thomas, parce que quand on regarde le casting, ils sont tous juifs ou arméniens quasiment. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques visages, quelques noms, quelques parcours éventuellement?
Bien sûr, il y a celui de Celestino Alfonso, qui est issu de la guerre en Espagne, il est réfugié en France. Il a combattu aux côtés donc, de Misak Manouchian sur tout type d'attentats. Il y a Marcel Reymann, qui lui est juif polonais. Marcel Reymann est quand même assez connu, il a un square à son nom dans l'11e. Il y a aussi Boxhoff qui était le chef des déraillements, Joseph Boxhoff. Lui aussi était juif hongrois. On peut voir que beaucoup étaient juifs, soit issus de la Hongrie, soit de Pologne. D'autres étaient italiens, d'autres espagnols, mais beaucoup, c'est vrai, beaucoup de juifs issus des pays de l'Est.
Et vous comprenez d'avoir combattu pour un même idéal? Vous comprenez ces affinités entre juifs et arméniens?
Bien sûr, je pense que tous ont eu des parcours assez compliqués et ce qui les unit avant même leur religion, avant même leur pays d'origine, c'est le combat pour la liberté. Ils se sont tous retrouvés au même endroit, au même moment, et qu'ils soient juifs hongrois ou espagnols ou arméniens ou apatrides, ils avaient tous en tête le même objectif.
Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses. Adieu la vie, adieu la lumière et le vent.
Entrer au Panthéon, c'est évidemment un symbole très fort, car il était apatride,
c'est
Manouchian.
Vrai. C'est vrai, c'est la première personne qui va être panthéonisée et qui n'est pas française. Et c'est même pas qu'il n'est pas français, c'est qu'il n'a même pas de nationalité à proprement parler. C'est un message assez fort, je pense, surtout en ce moment.
En ce moment.
En ce moment, avec les lois qui passent, je pense que c'est quelque chose qui...
Sur l'immigration?
Bien sûr. Je pense que c'est quelque chose qui va marquer un peu les esprits, j'espère, de se rendre compte que les gens issus de l'immigration portaient des valeurs qui sont les mêmes que ceux qui vivent en France depuis déjà un certain moment.
Émeric Glatz. Thomas Elek, Olga Bansik, Peri Bagzov, Misak Manukyan.
Իմ մելին է, իմ որբուկ, հիմա մեռում եմ ընկերներիս հետ արիաբար և մի մարդու գիտակցությամբ, որի խիղճը հանգիստ է։ Ես կամավոր եմ մտել ազատագրական բանակի շարքերը և մեռում եմ հաղթանակի շեմին։ Մեռում եմ առանց գերմանացի ժողովրդի հանդեպ ատելության։ Ի վերջո պատերազմից հետո գերմանացիներն ու մյուս բոլոր ժողովուրդները պիտի ապրեն խաղաղությամբ և եղբայրաբար։ Երջանկություն բոլորին։ 1944 թվական, փետրվարի 21։
Pour ma génération, c'était un modèle identificatoire extrêmement fort. Voilà. Moi, je voulais ressembler à Manouchian, voilà, quand j'avais 14 ans.
Pourquoi ?
Ben, d'abord, donc, le fait est que j'étais arménien.
Oui.
J'ai une anecdote plus forte que ça. Je suis arménien, ma mère est allemande. Et comme vous le savez, tout le monde le sait aujourd'hui, il écrit, Manouchian écrit au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand. Mmh. Moi, j'avais gagné sur tous les terrains. Là. Mmh. Ouais, voilà. Il y a plus d'autre part, il était communiste. Et j'ajoute, moi, cette dimension internationaliste aussi. C'est-à-dire, c'était pas du tout. Bien sûr, je m'appelle Guédiguian, il s'appelle Manouchian, mais c'est pas une revendication communautaire, en fait, j'allais dire. C'est quelque chose.
Ce sont des valeurs universelles, souligne ce matin.
Ils se battaient pour des valeurs universelles et ils se réclamaient tous de l'internationalisme prolétarien de l'époque.
Pour en sol majeur, l'accent marseillais de Robert Guédiguian au micro de France Inter. Guédiguian qui a réalisé L'armée du crime, vous l'avez vu ?
Oui, je l'ai vu. Je pense que c'est le premier lien que m'a envoyé Jean-David au début du projet. Il m'a dit, il faut que tu vois ce film.
Pourquoi alors ?
Parce que c'est impossible de passer à travers quand on fait un bouquin sur Misak Manouchian et sur le groupe Manouchian.
Donc Guédiguian, réalisateur, communiste, internationaliste, qui a cette phrase magnifique, il dit « Je voulais ressembler à Manouchian hein, quand il était ado ». Vous, Thomas Tcherkézian, vous qui êtes maintenant familier de cette histoire, est-ce que cette traversée, à la fois dans l'histoire et dans cette bande dessinée, ça a réveillé des sentiments nouveaux, et par rapport à l'Arménie, et par rapport à la France ?
Ah, bien sûr. Je pense que l'identification qui s'est faite à travers l'album et puis aussi le constat de récits aussi impressionnants sur tous les plans, ça marque les esprits. Puis j'ai travaillé quand même longtemps, travaillé 10 mois sur un projet. Oui, je pense que Misak Manouchian et tous les membres du groupe sont un peu des exemples pour moi.
Ça fait partie de la famille un peu.
Un peu, oui.
Quelle a été la difficulté essentielle pour raconter cette page d'histoire tout en restant dans la bande dessinée ?
Le challenge, ça a été, je pense, d'arriver à rendre un certain naturalisme. La BD, je pense que ça a été un bon support qui a permis à la fois de rendre quelque chose de romantique et en même temps de fort dans le naturalisme.
C'est quoi le romantisme quand on dessine ?
Le romantisme, ça passe à travers les expressions, ça passe à travers les émotions de chacun des personnages.
Quelle est la page que vous avez eu le plus de plaisir à dessiner, Thomas ?
C'est la page 15 au début de l'album, où le père de Manouchian meurt sous ses yeux, est exécuté sous ses yeux. C'est une page qui, est au début de l'album, donc forcément on est encore frais, on est encore disponible pour aller dans le détail, pour s'amuser. Et puis je pense que c'est le point de départ de toute la vie de Misak. C'est l'élément déclencheur, je pense que la mort de son père par les soldats ottomans en 1915, c'est ce qui fait qu'il va devenir ce qu'il deviendra. Et puis il y a un panel d'émotions fort dans tous les visages, les costumes sont variés entre ceux des soldats ottomans, ceux de Misak et ceux des fédaïs arméniens, c'est très 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 cool à dessiner. Ouais.
J'ai remarqué qu'il y a un adjectif qui arrive souvent sous votre plume, si j'ose dire, Thomas Tcherkézian, c'est le mot réaliste quand vous dessinez. Donc j'aimerais bien pour en sol majeur que vous nous dessiniez le visage de Misak Manouchian.
Alors ce qui est bien avec Misak Manouchian, c'est qu'il a des traits très marqués. Comme beaucoup d'Arméniens, il a les sourcils très prononcés, très sombres. Lui, il a la particularité qu'ils redescendent beaucoup sur les côtés de ses yeux. Il a des yeux très fermés, assez plissés, comme s'il voulait plus voir les horreurs de ce monde, un peu, hein, on peut dire ça. Alors le nez des Arméniens, c'est un réel pan de la culture arménienne, le nez des Arméniens, c'est du patrimoine. Donc il a un nez très prononcé aussi, assez long. Donc je le dessine de profil, la bouche, la commissure des lèvres, le menton. J'essaie de lui donner un air assez fier. Je pense que c'est la meilleure manière de le représenter. Il est quand même panthéonisé. Pareil, les oreilles, c'est comme le nez. En général, elles sont proportionnelles à sa longueur, donc il avait des bonnes feuilles d'arménien. Et puis une mâchoire puissante, il y en a qui le décrivent un peu comme un acteur hollywoodien, parce qu'il a une mâchoire de Schwarzenegger, mais... Et puis ses cheveux légèrement bouclés. Coiffé à la mode 1940, donc tiré sur le côté. Et les pattes un peu longues. Et voilà, on peut dire qu'on a dessiné Misak Manouchian.
Nobody boy in chinare. Achker nushu kumare. Yere korvalus nineman. Unker geru gamare. Yere korvalus nineman. Unker geru gamare.
Est-ce que par un hasard en sol majeur, ce chant vous évoquerait quelque chose, Thomas Tcherkassian ?
Pas du tout.
C'est un traditionnel arménien. D'après mon enquête, une chanson qui s'appelle Noubar, qui chante les beaux yeux en amande et joueur de Noubar.
Ah mais si, du coup, si ça me dit un truc, oui. Je pense que c'est une des rares choses que mon père m'a partagé, je pense, c'est cette chanson-là. Mais je comprends tellement rien que je ne l'ai même pas reconnue au premier abord.
Tes yeux en amande sont joueurs, tes sourcils tels une lune de trois jours. Tu as la grâce du cyprès. Qui voit Noubar ne l'oublie jamais.
C'est très beau.
Bah oui, c'est un poème, ça a glissé dans l'oreille d'une fille ou d'un garçon. Ça veut dire qu'à la maison, vous étiez plus la mère Michel, Guillaume et Guillaumette.
Exactement.
Que comptine ou musique traditionnelle arménienne.
Bien sûr. On avait un livre avec un CD de comptines françaises. Une vingtaine, c'était toujours très rigolo d'avoir à la fois l'audio et de pouvoir lire les paroles avec des super belles illustrations qui m'ont marqué, je pense encore aujourd'hui, je m'en rappelle.
Ouais. Ça veut dire que cette question des origines, parce que vous avez des origines arméniennes et algériennes, donc j'imagine qu'il n'y avait pas de comptines non plus en arabe ou en berbère, je ne sais pas la maman de quelle origine précise elle est. Cette question des origines n'a jamais circulé véritablement chez vous, à la maison, en questionnement.
Pas vraiment. Je pense que j'ai été très jeune pendant très longtemps sur la question des origines. Ça veut dire que je connaissais mes origines, mais je ne m'y suis jamais vraiment intéressé puisque ce n'était pas un sujet qui était fréquemment mis sur la table. Donc je pense qu'on a toute une vie pour s'y replonger.
Et se replonger dans les langues. Donc pas d'arménien, pas d'arabe.
Non.
Je crois comprendre que l'une de vos langues, Thomas, ce sont les films d'animation.
Mon azur. Que tu es devenu beau.
Toi aussi, tu es belle. Avant, j'étais aveugle. Et avant, je n'ai vu que des choses laides. Et te voilà, belle comme une reine. Je remplis mes yeux.
Tes beaux yeux bleus.
Nourrice, est-ce que tu n'es pas gênée que je sois dans ta maison alors que j'ai les yeux clairs ?
Tu veux parler de la superstition des yeux bleus ? Écoute, mon fils, je connais deux pays, deux langues, deux religions, ce qui fait que j'en sais deux fois plus que les autres. Pendant que les autres s'arrêtent à cause d'yeux bleus ou de chats noirs, moi, je m'active et je gagne. Qu'on n'évoque plus jamais cette sottise des yeux bleus devant moi. Misérable imbécile! Si les yeux bleus te gênent, tu pars et ne reviens plus. Aidez-le aux autres. File.
Tu crois qu'elle a compris?
Avec le ton que j'ai pris, il n'y a plus de problème de langue.
S'il vous plaît, dessine-moi ton enfance.
Avec une petite seconde en sol majeur, le graphisme d'un Michel Oslo, notamment dans Azur et Asmar, que vous m'avez cité, Thomas. Que dire?
Que dire J'en ai de très bons souvenirs. Je pense qu'il y a certains films d'animation ou films de manière générale qui nous ont tellement marqués quand on était petits que c'est très difficile de les revoir plus grands par peur d'être déçu de cette explosion d'émotions qu'on a eue.
Vous êtes un bébé millénaire, si j'ose dire. Vous êtes né en 2000.
Ouais.
Si vous le deviez la dessiner, cette enfance, en nous faisant un petit son et lumière, juste avec des mots,
Si je devais la décrire, ce serait moi assis à ma table à dessin, en écoutant juste d'une oreille attentive les films que regardait ma mère derrière moi. C'est aussi c'est les terrains de sport, je pense que j'ai passé beaucoup de temps sur les terrains de sport, donc c'est les sifflets, c'est les consignes du coach, c'est les crampons sur le goudron avant de rentrer sur le terrain, c'est beaucoup ça mon enfance aussi.
D'où cette carrure alors que j'ai devant moi comme ça? C'est Marseille aussi ou c'est pas Marseille?
C'est Marseille. C'est Marseille l'été, c'était, j'en ai des souvenirs incroyables chez ma grand-mère, les cyprès dans le vent, la mer, le soleil, les brioches avec le goût salé de la mer Méditerranée, c'était incroyable.
Et Alger juste en face,
j'ai rien dit.
J'ai rien dit. Vous vous souvenez de vous toujours penché sur une table à dessin et en même temps vous dites, Thomas, que vous n'avez jamais eu la vocation de dessinateur?
J'ai pas eu la vocation de dessinateur parce que forcément c'était une image qui n'était pas immédiate quand on est issu d'une famille d'immigrés. Forcément, on entend les paroles de nos grands-pères qui nous disent il faut gagner beaucoup d'argent, il faut être bien installé, faire des grandes études. C'est pas la première chose qui nous vient. On pense plutôt à un parcours classique, des études. Puis au final, on se dit mais je vais avoir trop de regrets quand j'aurai 30 ans, quand j'en aurai 40. Donc faisons ce qu'on a envie de faire et faisons-le à fond, quoi.
Et tellement à fond que vous avez fait une école.
Oui.
Que vous a appris cette école Émile Cole?
Émile Cole, c'était une école très technique, très académique. Donc j'ai appris à perfectionner mon dessin, à perfectionner mon coup d'œil, perfectionner mon histoire de l'art. Ça a été assez complet. Et puis j'ai rencontré des gens aussi qui m'ont montré d'autres styles, d'autres manières de voir. Je pense qu'une école, avant d'apprendre à dessiner, ça nous permet d'élargir nos horizons et de ne pas nous enfermer dans ce qu'on sait déjà faire.
Et après, de renvoyer balader cette école.
Bien sûr. J'avais l'envie de travailler, de me pencher sur un projet qui me plaisait, de sortir des carcans de la scolarité qu'on nous donne depuis la maternelle. J'avais besoin un peu de liberté, je pense. Et quoi de mieux qu'un projet sur Missak Manouchian pour se donner cette liberté?
Ouais. Vous m'avez évoqué, parmi les références incontournables, un certain Franquin, le papa notamment de Gaston Lagaffe. Mais vous m'avez évoqué aussi Frank Miller, Olivier Coipel, Jim Lee, les comics américains.
Les comics américains.
Qu'est-ce qui vous branche là-dedans?
Encore une fois, c'est lié à mon enfance. C'est par les comics américains que j'ai découvert la bande dessinée. Au sens dessin du terme, je l'ai découvert avec les comics quand j'avais 10-11 ans. Et j'ai pris une claque par le dynamisme du storyboard, le dynamisme des poses. Même si les histoires ne me branchaient pas forcément, c'était vraiment le dessin qui m'a donné un gros coup de cœur pour la bande dessinée.
Ouais. Donc les super-héros aussi.
Les super-héros, ouais.
Ouais, vous ressemblez à un super-héros vous-même. Hein. Vous sauriez définir votre style à vous, de dessinateur?
J'ai un style réaliste. J'essaie peut-être de m'en éloigner un peu, d'être un peu plus expressif, sortir des visages figés un peu du réalisme. Mais mon style, oui, c'est un style réaliste. J'aime beaucoup les valeurs, le travail du noir et blanc, le travail des formes, des plis, le travail de l'anatomie. C'est des choses qui me parlent beaucoup, qui m'ont toujours parlé. Et je pense qu'on peut dire ça comme ça. Oui.
Vous devriez vous prendre comme modèle pour vous dessiner. Merci Thomas Tcherkassian. La musique arménienne apparemment n'est pas votre style. Vous l'avez bien caché. Qu'est-ce qu'on fait pour se quitter? On le fait avec MC Solar, Caroline, ou bien The Blaze, Territory? Qu'est-ce qu'on fait?
On le fait avec MC Solar.
Pourquoi lui?
Pas parce que je l'écoute beaucoup.
C'est vrai que c'est une question bête.
Et c'est une chanson d'amour, c'est pour ça.
C'est de la poésie, hein?
C'est de la poésie.
Autant de l'oreille là sur les textes.
Ouais.
douceur. Ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup à la folie passionnément, mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale. D'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas dans nos prérogatives. Tchernobyl, tchernodébile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets vanille. À sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles. À ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Comme le trèfle à quatre feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pique pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur. Une pyramide de baisers, une tempête d'amitié, une vague de caresses, un cyclone de douceur, un océan de pensées. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. J'ai une peur bleue, je suis poursuivi par l'armée rouge. Pour toi j'ai pris des billets verts, il a fallu que je bouge. Pyromane de ton cœur, canadaire de tes frayeurs. Je t'ai offert une symphonie de couleurs. Elle est partie, mazo, avec un vieux macho qu'elle avait rencontré dans une station de métro. Quand je les vois main dans la main fumant le même ego, je sens un pincement dans son cœur, mais elle n'ose dire un mot. C'est que je suis las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Las de trêve qui pique ton cœur. Caroline. Claude MC prend le microphone, j'enlève de rire à Gamofine. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma dope, ma coke, mon crack, mon amphétamine. Caroline.
Au générique de cette enceinte majeure consacrée à Thomas Tcherkessian, en trois coups de crayon, la bande-son de notre invité. Premier coup.
Donc une première photo de mes arrière-grands-parents du côté de mon grand-père. Donc c'est une photo en noir et blanc, photo classique, portrait de famille d'époque. Ils se tiennent à gauche et à droite d'un fauteuil sur lequel est debout le grand frère de mon grand-père qu'il n'a jamais connu vu qu'il est mort à 9 ans. Ils se tiennent droit, ils sont probablement au Liban au début des années 20, peut-être 22, 23, il n'y a pas de date exacte. Mais c'était juste avant qu'ils partent pour la France pour aller à Marseille et s'installer définitivement.
Deuxième coup.
Paigirmajk, Emerik Glatz, Thomas Elek, Olga Bansik, Peri Bagzov, Misak Manukyan.
Իմ մելինե, իմ որպուկ, հիմա մերում եմ ընկերներիս հետ արիաբար և մի մարդու գիտակցությամբ, որի խիղճը հանգիստ է։ Ես կամավոր եմ մտել ազատագրական բանակի շարքերը և մերում եմ հաղթանակի շեմին։
Troisième coup.
Nobody boy in chinare. Achkeru nu shu humare. Yere korvalus ni neman. Unkeru geru gamare. Yere korvalus ni neman.
Tout ça retrouvé en podcast sur votre application Pure Radio grâce aux petits doigts de Caroline Filliette, Théo Raison, Yasmine Chouaki. On se retrouve demain autour d'une chanteuse franco-israélienne, Noga. Dans un instant, votre journal, suivi de tous les cinémas du monde.